9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour et bienvenue, très belle journée santé à tous. J'ai deux psychiatres sur le plateau ce matin. Alors, j'espère que je vais pouvoir maîtriser. Lucie Joly est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, praticien hospitalier à Sorbonne Université et vous êtes responsable de la psychiatrie adulte périnatale. Alors, c'est on appelle ça une spécialité émergente aujourd'hui, très peu connue en France.
Exactement, la psychiatrie périnatale, c'est assez peu connu et c'est en pleine émergence et à la confluence entre la gynécologie, la pédiatrie, la psychiatrie adulte et la pédopsychiatrie. Et en fait, pendant longtemps, ça a été exercé par la pédopsychiatrie avec un œil focalisé sur le bébé. Mmh. Et en fait, maintenant, on développe tout ça à travers les neurosciences avec un œil sur la maman.
C'est devenu avec Hugo Bottenham. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de clinique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie. Et vous publiez tous les deux dans le cerveau des mamans, la maternité, l'amour et le baby blues expliqué par les neurosciences aux éditions du Rocher. Alors c'est vrai que les neurosciences, on a tendance un peu à les mettre à toutes les sauces aujourd'hui. Et pourtant, elles sont très peu appliquées dans votre spécialité à vous en plus. Hein.
Exactement, c'est très peu appliqué en périnatalité et on a un champ très large pour faire de nombreuses découvertes et expliquer de nombreux mystères comme le déni de grossesse, le syndrome du bébé fantôme ou encore les grossesses imaginaires.
Mmh, on en parlera ce matin. Est-ce qu'on pourrait voir à l'imagerie si une femme a eu des enfants et combien elle en a eu ?
Oui, tout à fait. Alors, on peut pas le voir de façon directe. Donc, on peut utiliser, par contre, certains marqueurs, certains proxys, qui nous permettent de déduire si une femme a eu ou pas des enfants. Et même chez des femmes pour lesquelles la grossesse a lieu il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on sait qu'à l'imagerie, il y a des différences morphologiques qui persistent après la grossesse et qu'on peut déduire un peu par des calculs mathématiques, notamment.
Mais on voit pas on voit pas vraiment.
Non, on voit pas précisément. Il y a pas un signe d'un seul coup qui va être lié à la présence d'un bébé.
Deux enfants.
Voilà, non. Il n'y a pas une zone du cerveau où on va dire, bah là, c'est sûr qu'il y a deux bébés qui sont nés. Par contre, en fonction de la morphologie du cerveau, en faisant plusieurs IRM, et notamment en utilisant des techniques, notamment d'apprentissage profond, hein, des techniques de deep learning, on peut déduire un peu ce qui se passe et quelles sont les différences qui existent entre des femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas eu des enfants.
C'est quoi le deep learning?
Deep learning, c'est, en fait, on va utiliser une technique de calcul, on va prendre plein d'informations, et grâce à ces informations qui sont connues, préexistantes, on va pouvoir déduire un peu on va pouvoir faire des inférences sur ce qu'on observe au niveau d'une imagerie, au niveau d'un traitement d'information.
Bien, vous verrez qu'on va apprendre plein de mots ce matin. À noter, Lucie, que vous avez développé à la PHP Sorbonne Université une application numérique qui s'appelle Smartpartum.
Exactement.
Et c'est assez génial comme outil.
Alors, Smartpartum, c'est une application qui est en cours de construction et qui sera opérationnelle en début 2023. Et en fait, les mères dans les services de suite de couche, à la sortie de la maternité, elles vont pouvoir scanner un QR code où il va y avoir le téléchargement de cette application. Et elles vont pouvoir recevoir des soins, des conseils de soins primaires au bébé, des conseils de sortie de maternité immédiat. Et puis elles vont pouvoir aussi remplir des questionnaires d'anxiété, de dépression, de trauma. Et en fonction des réponses à ces questionnaires, on leur proposera soit de la psychothérapie, avec par exemple des exercices de cohérence cardiaque ou de méditation pleine conscience, soit elles répondront avec des réponses assez inquiétantes. Et à ce moment-là, elles seront mises directement en lien avec une plateforme téléphonique où une psychologue pourra répondre à leur appel.
Oui, parce qu'il faut expliquer que la dépression et la maternité, c'est un sujet dont on parle assez peu, mais c'est très fréquent.
Alors, la dépression du postpartum, c'est assez fréquent et ça va toucher une femme sur quatre. Donc, c'est quand même un chiffre assez...
Une femme sur quatre, c'est énorme.
Assez énorme.
Alors, dans un délai de combien? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est combien de temps après
Alors, dépression du postpartum, on va parler de l'accouchement jusqu'au 1 an, voire 2 ans après l'accouchement. Donc, c'est quand même une période assez étalée. Il faut rappeler aussi que le suicide maternel en suite de couche, c'est quand même la deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. Donc c'est quand même...
Ça, c'est le tabou des tabous. Hein.
Voilà.
On n'en parle jamais. Alors, on va expliquer un certain nombre de mots ce matin. L'interoception, qu'est-ce que c'est que l'interoception maternelle? Et pourquoi c'est un concept important à comprendre?
Alors, c'est un concept fascinant parce qu'en fait, ce qui est très très important dans l'activité de notre cerveau, c'est de décoder, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. Dans notre vie quotidienne, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde, dans ce qu'on perçoit en termes d'odeur, en termes de vision, en termes d'audition. Mais en fait, notre cerveau, il fait très attention aussi à tout ce qui se passe à l'intérieur. comment bougent nos organes, comment bat notre cœur, est-ce que nos poumons ils sont remplis ou pas. Tout ça, c'est des signaux qui sont extrêmement importants pour comprendre la structure, un peu la valeur de l'environnement. Et pendant la grossesse, eh ben, c'est totalement bouleversé, parce qu'on a des modifications profondes de la morphologie du corps, et donc il y a un bouleversement de l'interoception maternelle. Ces bouleversements, ils sont très importants aussi pour la perception des mouvements du bébé, parce qu'on sait typiquement que la mère, la façon dont elle perçoit les mouvements de son propre bébé, est totalement et très 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 aléatoire et très différente selon les mères, et parfois... elle perçoit des mouvements qui ne sont pas vraiment réels, et puis il y a des mouvements qui sont du bébé qui existent et que la mère ne perçoit pas. Ça, c'est dû à l'interoception maternelle.
Interoception maternelle. Donc ça, c'est un des mots dont on va parler ce matin. Le cerveau, nous expliquait nous, est un grand prédicteur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que notre cerveau est un grand prédicteur ?
Notre cerveau, en fait, c'est une machine à prédiction. Son objectif, l'objectif primordial du cerveau, c'est d'éviter les choses qui sont incertaines et de diminuer l'incertitude. Pour faire ça, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va émettre des prédictions sur tout ce qui pourrait nous arriver en termes sensoriels, en termes de réponse à nos comportements, en termes d'émotions. Et ces prédictions, elles sont confrontées à tout moment à la réalité de ce qui nous arrive. C'est-à-dire, si je prédisais que là, j'allais ressentir des émotions très positives en venant parler avec vous aujourd'hui à la radio, et qu'en fait, je me sens pas bien, j'ai des émotions plutôt négatives, ben, il y a une erreur de prédiction, et cette erreur de prédiction, elle va permettre de réviser, de modifier toutes les prédictions que le cerveau se faisait. Et ça, c'est quelque chose de très dynamique qui a lieu à tout moment.
C'est-à-dire qu'en fait, instant. En permanence, il y a des ajustements si la prédiction du cerveau n'est pas conforme à ce qui se passe dans notre corps.
Exactement. Et ces ajustements, c'est la base de notre réalité perceptive. C'est-à-dire que la façon dont on perçoit les choses, à tout moment, en fait, on est encastré dans une espèce de confrontation entre les prédictions et la réalité du monde. Quand ça dysfonctionne, eh bien, ça peut donner des troubles psychiatriques, ça peut donner la génération de pensées ou d'émotions un peu bizarres. Et puis, bien sûr, pendant la grossesse et dans le postpartum, eh bien, c'est mis à mal, toutes ces prédictions. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour la psychopathologie périnatale dont on va parler juste après.
Mais ce qui veut dire que le cerveau a toujours un temps d'avance ?
Le cerveau a toujours un temps d'avance.
Contrairement à ce qu'on pense ?
Pour vous qui êtes un lecteur rapide et champion du monde de lecture rapide, vous savez très bien que, par exemple, que quand vous lisez, il y a une grande partie des mots que vous ne lisez pas, en fait, qui sont totalement prédits, qui sont prédits de façon
très intuitive
par le cerveau, et qui fait que vous allez lire qu'un mot sur 3 ou un mot sur 6 quand vous êtes un lecteur rapide, et ça va permettre de donner du sens au texte. Vous allez percevoir les autres mots avant même de les avoir lus. Donc votre cerveau a un temps d'avance au cours de la lecture.
C'est-à-dire que on n'agit pas et après on pense. On pense et après on agit.
Alors ça, c'est quand même soumis à débat, parce qu'on se rend compte qu'un grand nombre de nos actions, en fait, elles sont mises en place avant même qu'on les décidait, avant même qu'on les pensait. Et en fait, les raisons qu'on donne à nos actions, c'est souvent des justifications, c'est des rationalisations pour des actions que le cerveau a déjà mis en place. Mais je vous donne un exemple plus simple. Typiquement, vous avez l'habitude tous les matins de passer devant une boulangerie qui sent très fortement le pain avec une bonne odeur de pain chaud. Eh bien, un jour, la boulangerie, elle est fermée. Vous passez quand même devant cette boulangerie, vous allez sentir l'odeur de pain chaud, votre cerveau va prédire et va créer cette sensation, alors que la boulangerie elle est fermée. Parce qu'en fait, la prédiction a empli votre réalité sensorielle. Et ça, c'est le cas pour plein d'autres choses dans notre quotidien.
Ça marche à tous les coups, ça ?
Non, ça marche pas à tous les coups. C'est très différent. Ça dépend des moments, ça dépend de la façon dont le cerveau est en train de prédire le monde, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fréquent dans notre quotidien.
Alors, la grossesse, ça reste quelque chose de très mystérieux. Comment est-ce que le cerveau de la future mère va-t-il changer pendant la grossesse? Et vous expliquez que finalement, il va rapetisser.
Alors, la grossesse, c'est un moment très particulier dans la vie d'une femme qui modifie à la fois son corps, mais aussi son cerveau. Et on sait que les modifications cérébrales, elles arrivent très, très tôt au début de la grossesse et elles vont être indispensables pour préparer la mère à l'arrivée d'un bébé et à répondre aux besoins de son nourrisson.
D'accord. Donc, ce qui veut dire que le cerveau va évoluer dans l'optique de devenir mère.
Exactement. Et il va modifier son architecture. C'est ce qu'on appelle le principe de plasticité périnatale. Et c'est comme ça que le cerveau va se transformer. Et il y a des études scientifiques qui ont montré en effet une diminution de la taille du volume du cerveau. Alors ça ne veut pas dire qu'on est moins intelligent pendant qu'on pendant la grossesse, c'est simplement que le cerveau va avoir des spécificités pour préparer à la parentalité.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces modifications, cette plasticité cérébrale, en fait, elle existe dans la vie de tous les jours, hein, pour tout le monde, en dehors de la grossesse. Mais il y a des moments, il y a une espèce de hub qui sont extrêmement importants. Bon, en fait, donc, par exemple, on sait les premières années de vie, l'adolescence, et puis pour les femmes, la grossesse, qui sont trois moments extrêmement importants en termes de modification de la plasticité cérébrale, avec des remaniements qui sont à la fois morphologiques, mais aussi en termes d'activité. C'est-à-dire qu'on sait vraiment que l'activité du cerveau se transforme complètement dans ces trois moments de vie très importants.
Est-ce que les neurones, par exemple, dialoguent entre eux différemment ?
Oui, alors c'est très difficile d'étudier spécifiquement les neurones, justement avec les neurosciences telles qu'on les pratique chez l'humain en tout cas. On peut le faire dans des modèles animaux, ou on peut le faire dans des modèles où on crée des neurones artificiels. Par exemple, ça existe, de créer des modèles computationnels avec des neurones artificiels et de façon mathématique essayer de calculer, de comprendre comment ils dialoguent entre eux. Donc pour l'instant, les neurosciences périnatales, elles sont assez macroscopiques, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent à l'activité du cerveau en termes de grosses activités, en termes d'activités fonctionnelles. On regarde assez peu encore la façon dont chaque neurone dialogue entre eux, mais bien sûr, c'est quelque chose de très important, notamment pour les neurosciences computationnelles, qui étudient justement ces petits mécanismes de communication entre chaque neurone.
Bon, dans un instant, vous allez répondre à une question essentielle. On dit toujours que l'intestin est notre deuxième cerveau, et finalement, si c'était le placenta.
Exact.
Ou pas. Je rappelle que vous publiez dans Le cerveau des mamans aux éditions du Rocher, le docteur Hugo Bonteman et le docteur Lucie Joly sont nos invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des mamans ? C'est la question qu'on se pose ce matin avec le docteur Lucie Joly et le docteur Hugo Bonteman. Alors, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, mais vous allez voir.
Bonteman,
voilà. Et vous publiez tous les deux dans Les cerveaux des mamans aux éditions du Rocher. C'est vrai que c'est un sujet neuf, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas dans votre livre. Hein. Donc, il y a les neurosciences, mais aussi vous proposez des choses qu'on va essayer d'expliquer ce matin. Je vous taquinais sur l'histoire de l'intestin et du placenta, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce dialogue entre l'intestin et le cerveau. Est-ce que ce dialogue entre l'intestin, le microbiote et notre cerveau, ça explique certains ennuis gastriques qui peuvent arriver pendant la grossesse ?
On parle beaucoup de l'intestin comme le deuxième cerveau. Vous savez que c'est quelque chose qui est très populaire maintenant comme terme. Il faut surtout parler du corps. Parce que tout le corps, l'ensemble du corps est tapissé de cellules nerveuses et l'ensemble du corps interagit, communique à tout moment avec notre système nerveux central, permettant d'influencer à la fois son activité, mais aussi la façon dont il décode le monde. Hein. C'est-à-dire que ça, on sait très bien, par exemple, que notre interoception, l'intérieur de notre corps, ce qu'on parlait tout à l'heure, va influencer la façon dont on perçoit la valence, la valeur affective du monde qui nous entoure. Et ça, l'intestin joue un rôle assez important. Parce qu'on sait que dans la détermination de la valence, notamment de la valence négative, le sentiment d'être dégoûté par quelque chose, le sentiment d'avoir une émotion négative quand on perçoit quelque chose, ben, il y a une grande part de cette détermination de la valence qui vient, en fait, de notre activité intestinale. Là, le rôle du microbiote est important. Alors, c'est encore très difficile de comprendre exactement comment le microbiote interagit avec le cerveau. Vous savez qu'il y a plein d'études, hein, c'est un champ de recherche très ouvert, très, très intéressant. Mais il y a encore beaucoup de recherches à faire pour comprendre avec précision exactement ce qui se passe en termes de cette interrelation. Pendant la grossesse, il y a des modifications du microbiote qui sont connues. Et encore une fois, pas assez encore de données pour comprendre exactement comment ces modifications très précises du microbiote influencent l'activité cérébrale.
Mais les modifications hormonales, elles sont connues.
Les modifications hormonales sont connues.
Ouais,
et c'est probablement une interrelation, en fait, entre des modifications hormonales, des modifications de la morphologie du corps et des modifications du microbiote en général et de l'activité de ce microbiote interoceptif.
Les hormones de la grossesse vont agir sur le cerveau maternel et donc il va se créer plein de choses. Et on peut notamment parler de l'hyper-MS gravidique, par exemple.
Alors, attention, un mot qui explique.
Voilà, c'est les vomissements très sévères, incoercibles, qui peuvent toucher les mères pendant la grossesse. Ça a été rendu célèbre par Kate Middleton, parce qu'elle les a subis pendant ses grossesses. Et ça peut être vraiment très, très invalidant. Hein. Certaines femmes même demandent une interruption volontaire de grossesse parce que c'est très éprouvant. Eh bien, ça, voilà, c'est encore un mystère, mais on pense qu'il peut y avoir une origine multifactorielle avec un terrain génétique, hormonal, et puis des facteurs psychosociaux.
Et un peu de microbiote, parce que typiquement, il y avait une hypothèse sur l'Helicobacter pylori, hein, qui a été assez célèbre, justement, en lien, donc une infection à l'Helicobacter pylori, qu'on a, beaucoup d'entre nous ont un Helicobacter pylori au niveau de l'estomac, d'accord, mais on est souvent, ça n'a pas de conséquences ulcéreuses, mais pendant la grossesse, l'Helicobacter pylori pourrait favoriser expliquer justement par des modifications hormonales aussi, eh bien la survenue de cette hyperémèse gravidique. Donc vous voyez, c'est des hypothèses qui font appel à des agents exogènes, hein, des bactéries ou à des virus, et qui sont intéressantes aussi par rapport à la physiologie, à la physiopathologie périnatale.
Et de mieux comprendre tout ça, c'est aussi voilà, mieux prendre en charge ces mères qui sont dans la détresse, hein, et évoluer sur les
pratiques. Oui, parce que vous vomissez toute la journée.
Et
là, c'est pas 3 semaines. Hein.
Il existait avant un protocole où on devait mettre les femmes en isolement, dans le noir, sans visite. Voilà, on va essayer d'évoluer sur les protocoles et sur ces prises en charge-là.
Et aujourd'hui, ça se prend comment en charge ?
Alors, il y a toujours une dimension quand même où on essaie de les mettre un petit peu au calme, en général, dans les unités d'hospitalisation. Après, il y a des traitements pharmacologiques qui permettent de diminuer les nausées et les vomissements, qui marchent pas toujours, d'ailleurs. Et puis, il y a un peu de psychothérapie qui est mise en place aussi. Alors, pas forcément pour traiter finalement la cause de cette hyperémèse gravidique, mais parce que c'est tellement difficile à vivre de vomir tout le temps comme ça, que finalement, il y a des femmes qui ont des regrets maternels par rapport à la grossesse, qui se disent c'est tellement, le quotidien est tellement douloureux pour moi en termes sensoriels, que finalement, je regrette d'être enceinte. Donc ça, il faut un accompagnement, il faut pas hésiter à accompagner ces femmes-là.
Et ça touche, quel pourcentage? C'est fréquent ou pas?
Alors, l'hyperémèse gravidique, c'est une sous-population quand même des femmes qui ont des vomissements. C'est-à-dire, on estime entre 60-80% des femmes qui ont des vomissements gravidiques. D'accord? Et parmi ces femmes-là, l'hyperémèse, entre 5-10%. Donc, c'est quand même beaucoup plus faible. Et puis, il y a plein de types d'hyperémèse. Il y a des hyperémèses gravidiques qui vont juste durer pendant 3 mois et d'autres qui vont durer jusqu'à la fin de la grossesse. Celles qui durent pendant toute la grossesse sont quand même beaucoup plus rares.
Alors, star des réseaux sociaux, le placenta. Pourquoi le placenta est-il devenu une star? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, le placenta, il y a plein de choses, hein, autour du placenta. Alors, c'est aussi un champ de recherche très intéressant parce que le placenta, il sécrète beaucoup de molécules qui sont des molécules utilisées par le cerveau et qui sont des molécules qui ressemblent parfois à celles qu'il y a directement dans le cerveau. Donc, ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. On sait que le placenta, il va sécréter pas mal de neurotransmetteurs qui vont influencer la façon dont le cerveau du bébé va finalement se développer. Et puis, ça influence aussi la façon dont le corps de la mère et son cerveau, donc le cerveau maternel, vont communiquer entre eux. Donc ça modifie des choses qui sont assez importantes. Puis le placenta, c'est quelque chose qui a été popularisé parce que maintenant il y a beaucoup de femmes, notamment aux États-Unis, qui se sont mis sur les réseaux sociaux en montrant la placentophagie, c'est-à-dire le fait de manger son placenta, qui peut être sous différentes formes. Il y a des femmes qui ont fait des smoothies de placenta, des femmes qui l'ont fait.
On trouve des recettes maintenant.
Exactement.
Encapsulées même.
Alors on rappelle qu'en France c'est interdit, hein, c'est une pratique qui est pas autorisée en France, parce qu'on a une politique française par rapport aux objets biologiques qui est assez stricte. Mais aux États-Unis c'est des choses qui sont utilisées. Faut faire attention quand même. Il y a des risques infectieux notamment. Donc ne vous amusez pas à faire ça, à manger le placenta, parce que le placenta peut être porteur aussi de plusieurs germes, notamment une fois qu'on a fait la délivrance. Donc il faut faire attention avec ces techniques. Il y a des boîtes aux États-Unis qui proposent par exemple de mettre en petit comprimé le placenta et la femme peut le garder pendant 1 an comme ça et prendre chaque jour des petits morceaux de placenta.
Alors oui, en France c'est interdit, hein, parce que le placenta il a un statut tout particulier, il est considéré comme un greffon et donc voilà, c'est interdit.
Oui, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de l'utiliser. Comment expliquez-vous qu'on retrouve des cellules fœtales au niveau du cerveau de la mère?
Ça c'est un mystère. C'est un mystère qui est aussi un axe important de recherche. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme fœtal. Hein. Donc c'est le fait qu'il y ait des petites cellules du fœtus qui soient passées dans le corps de la mère et qui vont avoir une influence à la fois au niveau corporel, on ne sait pas très bien sur quoi, mais probablement sur les organes de la mère, il y a une influence, et puis dans le cerveau directement, et qui ne sont pas forcément reconnus d'ailleurs comme des agents exogènes. Parce que vous savez que dès que vous avez des cellules qui ne vous appartiennent pas et qui passent dans votre corps, bien votre organisme il va produire des molécules, des anticorps, des choses qui vont essayer de combattre ces cellules étrangères. Et là, dans le cerveau maternel, et bien parfois, ces cellules fœtales, elles passent et elles sont considérées bien, presque comme une harmonie, comme si c'était quelque chose qui faisait partie du corps lui-même de la mère. Alors ça, c'est des recherches qui sont compliquées, hein, parce que c'est très difficile chez l'humain de faire ces recherches-là. Mais qu'on peut faire chez l'animal, notamment, en essayant de comprendre la façon dont ces cellules vont interagir avec les cellules de la mère et avoir un effet. Ça, c'est encore une fois des recherches d'avenir futur, notamment qui sont à la frontière entre l'épigénétique, la génétique et puis les neurosciences computationnelles dont on a parlé juste avant.
Alors, il y a un passage passionnant dans votre livre, c'est la façon dont se construit le lien singulier entre la mère et son bébé. Et savoir à quel moment ce lien se construit-il?
Mais déjà, le lien, il apparaît très tôt au moment de la grossesse. C'est ce qu'on appelle le lien anténatal. le lien avec son bébé, c'est pas automatique, hein, c'est quelque chose qui se construit, qui passe par plusieurs étapes, hein, pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Et voilà, c'est pas dans l'idée, dans le grand public, voilà, on est tout de suite très bien avec son bébé. Non, c'est quelque chose qui apparaît, il faut du temps, on apprend à connaître son bébé qui est un petit étranger. Et donc, voilà, il faut aussi déculpabiliser là-dessus prendre le temps d'apprendre à connaître son bébé.
Il y a une des choses qu'on oublie souvent dans l'attachement, alors qu'on étudie à l'Institut du cerveau, justement, parce qu'on s'est dit que c'était très important d'étudier ça, c'est la sensation, justement, tout ce qui est perception du fœtus. C'est-à-dire, à quel moment, quand la mère ressent les mouvements du fœtus ou ressent la présence du fœtus, comment c'est relié finalement à l'attachement? Pour l'instant, l'attachement, on est à beaucoup étudié de façon très psychologique. C'est-à-dire, on disait, on pensait à tout ce qui était affectif, à toutes les pensées que la mère pouvait avoir sur ce futur bébé, sur tout ce qui allait se passer après. Et en fait, nous, on essaye aussi de s'intéresser beaucoup à ce qui se passe en termes de perception et le rôle de l'interoception maternelle dont on a parlé dans la génération de ces processus d'attachement, avant même que la mère puisse donner forme, puisse voir ce fœtus, puisse le toucher. Finalement, ce qui se passe dans le ventre de la mère, et notamment toutes les sensations, sont extrêmement importantes pour la formation de ce lien. Alors, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire plus on ressent son fœtus, plus on va avoir des liens d'attachement qui se tissent, mais aussi plus on a des difficultés d'attachement, et bien moins on va ressentir son fœtus. Donc c'est très difficile de savoir la causalité de cette direction entre perception et attachement.
Mais est-ce qu'elle est réelle, cette perception ?
Bien, cette perception, elle est ancrée dans le réel, mais elle peut se détacher un peu du réel. On sait notamment qu'il y a des perceptions du fœtus qui sont totalement hallucinées par le cerveau, qui sont dues soit à la mobilité d'autres organes, l'utérus qui bouge, les intestins qui bougent, soit même à des générations de perceptions totalement artificielles par le cerveau lui-même. C'est quelque chose qu'on voit dans le postpartum, hein, notamment. Parfois, il y a plus de bébé dans le ventre, et pourtant la mère va continuer à percevoir des mouvements du fœtus.
Et longtemps, longtemps, longtemps après.
Parfois, pour des grands-mères qui ont fait une grossesse il y a 60 ans, il y a 50 ans, elles ressentent encore certaines fois des mouvements du fœtus à l'intérieur du ventre.
Alors ça, c'est quelque chose dont les femmes ne parlaient pas avant, hein, parce qu'elles avaient peur d'être prises pour des folles. Comment on l'explique ?
Alors c'est ce qu'on a appelé dans notre livre le syndrome du bébé fantôme. En fait, on l'a mis en évidence parce que dans notre activité clinique de tous les jours à l'hôpital, eh bien, on voit des mères qui, après l'accouchement, ressentent ces mouvements-là. Et en fait, on voit que maintenant, en leur posant la question de façon un peu systématique, eh bien, il y en a énormément.
Parce que vous leur posez systématiquement la question.
Maintenant, on commence à...
Qu'est-ce que vous leur posez comme question ?
Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir des mouvements qui vous ont fait penser ou qui ressemblaient à ceux d'un bébé ? Et là, en général, elles nous regardent avec un regard ahuri en disant « Ouh là là, oui, c'est vrai, mais j'en ai pas parlé. » Et elles sont, il y a un soulagement aussi de pouvoir en parler. Alors, suite à ça, suite à ces constatations cliniques, on a lancé une étude, hein, où on a 4000 répondantes en France, en Belgique et en Suisse, qui nous ont répondu justement, et on retrouve 40% environ de femmes qui ont des mouvements fœto-fantômes ou qui ont eu dans le passé des mouvements fœto-fantômes. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si rare, et si vous en ressentez, considérez que c'est tout à fait normal et qu'il y a énormément de femmes qui ont les mêmes sensations que vous.
Voilà, c'est assez physiologique et finalement c'est comme si le corps gardait une trace de la présence d'une grossesse, qu'elle soit allée au bout ou non. Et c'est important en fait de savoir ce qui se passe dans le cerveau des mères, parce que par exemple dans le contexte du deuil périnatal, d'ailleurs aujourd'hui, le 15 octobre c'est la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Eh bien, quand on ressent ce type de sensation, de mouvement fantôme, c'est vraiment un poignard mémoriel. Et les femmes, voilà, réactivent un vécu douloureux. Ça peut être...
Des femmes qui, à la date anniversaire de la mort, par exemple, du fœtus, vont avoir ces mouvements fantômes qui reviennent. Comme une sorte, justement, comme dit Lucie, de poignard de la mémoire qui impose une marque sensorielle, une empreinte sensorielle, finalement, à cette mémoire.
Dans le cerveau des moments, vous allez voir, c'est passionnant. Votre éditeur, ce sont les éditions du Rocher. Le docteur Lucie Joly et le docteur Hugo Botteman sont nos invités jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, il s'en passe des choses dans le cerveau des moments, surtout au regard des neurosciences. On en parle ce matin avec le docteur Lucie Joly qui est avec nous et le docteur Hugo Botteman. Et vous avez écrit tous les deux dans le cerveau des mamans aux éditions du Rocher, La maternité, l'amour et le baby blues expliqué par la neuroscience. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. C'était il y a quelques jours la journée du deuil périnatal et la perception sur ce sujet a quand même beaucoup évolué hein, ces dernières années.
Oui.
C'était le tabou des tabous puisque en fait les femmes s'apprêtaient à donner la vie et au final elles donnent la mort. C'était un deuil sans visage finalement.
Un deuil invisible, on dit. Ça touche quand même 8000 familles par an en France, donc c'est quand même un enjeu majeur de santé publique. Et pendant très longtemps, c'est resté très tabou, très minimisé, hein, le deuil périnatal, parce que c'est le deuil de quelque chose, de l'invisible. Et les choses évoluent, on en parle de plus en plus. Samedi 15 octobre, c'est la journée du deuil périnatal. On en parle beaucoup plus sur les réseaux avec le concept de mamange, c'est-à-dire les mères qui ont perdu un ange. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, on en parle plus et c'est une bonne chose.
On a coécrit justement avec Lucille à une tribune justement sur le deuil périnatal pour que ça sorte un petit peu aussi de l'invisible et de l'indicible, parce que très souvent les parents enfouissent leur douleur et ce qu'ils pourraient en dire dans le silence, parce que parfois sur le plan familial même c'est pas compris. On considère que c'est juste une période négative, une épreuve sur le chemin de la parentalité, mais pas un deuil à part entière. Donc on retire parfois ce deuil, la qualité du deuil en lui-même. Puis il faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même une dimension très sensorielle, notamment pour la mère, hein. C'est que le deuil périnatal, c'est aussi, il y a une absence physique très forte, hein, de l'intérieur du corps. Il y a un vide, il y a une vacuité d'ailleurs qui est décrit par les mères. Et ça, c'est quand même assez différent aussi du deuil qui fait appel à nos autres sens, hein, d'un deuil chez l'adulte. Il y a vraiment une deuil avec quelque chose d'une dimension interne très 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 forte.
Ça se prend en charge comment finalement ?
Alors par
parce que beaucoup de ces deuils sont pathologiques. Hein.
Déjà la première chose c'est vraiment il faut en parler absolument à son entourage et si ça nous déborde trop à ce moment-là aller consulter un psychologue ou un psychiatre en périnatalité. En effet il y a 20 à 30% des deuils qui deviennent des deuils pathologiques, c'est-à-dire que les symptômes sont sévères avec une vraie douleur morale voire des idées suicidaires qui apparaissent et donc il faut absolument les prendre en charge.
La frontière entre le normal et le pathologique est très difficile pour le deuil. Hein. Il y a une tendance à psychiatriser le deuil en général. Mais il faut faire attention à l'objet inverse. C'est-à-dire quand on a des vrais symptômes psychiatriques, une douleur qui persiste largement au-delà des phases de deuil, il peut y avoir la tendance inverse, c'est-à-dire c'est normal, ça fait partie du processus de deuil, alors que ce n'est pas le cas. D'accord. Des idées suicidaires dans les suites d'un deuil, ce n'est pas tout à fait normal. Il ne faut pas hésiter à en parler et à consulter à ce moment-là.
Et puis les grossesses suivantes peuvent être aussi compliquées à vivre. Et donc, trouver la place de ce nouveau bébé. Et donc, elles doivent être accompagnées.
Mmh. Vous qui êtes un spécialiste du cerveau, est-ce qu'on connaît l'impact, justement, du deuil sur le cerveau ?
Alors, il y a plein d'études qui s'intéressent beaucoup au rôle de l'ocytocine. Hein. On en parle un peu dans le livre.
L'ocytocine, c'est l'hormone de...
De plein de choses.
Alors, c'est l'amour.
C'est une neurohormone. Souvent, c'est utilisé comme l'hormone de l'amour, ce qu'il faut prendre avec des pincettes, des énormes pincettes. Hein,
ah bon?
Parce que c'est beaucoup plus complexe.
C'est un mythe qui tombe là.
C'est beaucoup plus complexe que ça. Notamment, on se rend compte que c'est l'hormone de plein de phénomènes. Alors, des phénomènes qui sont liés à l'interoception, dont on a parlé juste avant, des phénomènes qui sont liés à la façon dont on perçoit les relations sociales, et les phénomènes aussi d'attachement, à une figure d'attachement. Et dans le deuil, ce qu'on sait, dans l'évolution des phases de deuil, il faut être capable progressivement de se désinvestir de quelque chose. C'est-à-dire que quelque chose qui était très investi sur le plan affectif, l'évolution normale du deuil, c'est que cet objet affectif auquel on s'est attaché, on puisse s'en désinvestir. Donc il y a un rôle très fort de l'ocytocine et des zones cérébrales associées à l'attachement et à l'ocytocine, qui va être justement lié à la diminution de ces activités cérébrales. Et dans le deuil pathologique, donc c'est-à-dire qu'on a des symptômes de deuil extrêmement sévères ou des symptômes dépressifs associés au deuil, on se rend compte justement que les zones d'attachement, elles sont hyperactivées, elles restent hyperactivées. Comme si finalement, le cerveau n'arrivait pas à passer ces phases de deuil et à désinvestir la figure qui était autrefois investie. Donc ça, c'est un champ de recherche important, un peu moins en périnatalité, mais dans le deuil adulte. Il y a quelque chose d'assez fort en périnatalité qui vaut le coup de faire des recherches aussi, c'est qu'on sait qu'on utilise l'ocytocine de façon exogène pendant l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accouchements où on va mettre de l'ocytocine parce que ça favorise en fait l'accouchement, ça favorise le fait d'accélérer l'accouchement. Et donc on ne sait pas encore l'effet de cette ocytocine qu'on apporte aux femmes sur les processus de deuil. Donc ça, c'est un champ de recherche important.
Mais la future mère, elle n'est pas dans un bain d'ocytocine pendant la grossesse ? Alors, ou c'est une légende ?
il y a de l'ocytocine qui apparaît dès le début de la grossesse. Mmh. Le maximum du bain, c'est au moment de l'accouchement et dans les jours qui suivent l'accouchement, même dans les semaines qui suivent l'accouchement, où là, il y a vraiment une tempête ocytocinergique, une tempête d'ocytocine, mais de plein d'autres molécules, hein, parce qu'en fait, l'ocytocine, on parle beaucoup d'elle. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en fait, l'ocytocine, elle va interagir avec la dopamine, avec d'autres neurotransmetteurs qui ont sûrement une importance aussi cruciale pour ces phénomènes d'attachement.
Je crois que la mère est dans un tsunami hormonal, hein.
Il n'y a pas que de l'ocytocine, c'est ça que vous voulez dire. Est-ce que le père en a ?
Oui, bien sûr, et le père en a. Et puis, on en a tous, en fait, à tout moment, hein, quand on s'attache à quelqu'un, quand on crée une relation d'attachement avec, par exemple, une relation amoureuse, une relation d'amitié, eh bien, on va aussi utiliser ces zones ocytocinergiques. Mais il faut faire attention, parce que typiquement, on parlait du rôle de l'ocytocine dans l'amour. L'ocytocine, en fait, elle nous pousse quand même à aimer ce qui est très proche de nous. C'est-à-dire qu'elle a tendance à être générée pour avoir un rôle dans l'attachement de ce qui est très proche, mais ça peut avoir un rôle inverse, c'est-à-dire que les choses qui vont être un petit peu en dehors de notre groupe social, en dehors de notre endogroupe, eh bien, quand il y a beaucoup d'ocytocine, ça peut avoir tendance à augmenter l'agressivité ou le sentiment un peu de rejet des autres. C'est quelque chose qu'on voit chez les animaux, typiquement. Très proche pour ceux qui sont le plus proche de nous, et par contre très agressif avec ceux qui vont être un peu différents de nous.
Vous parliez tout à l'heure des femmes qui ressentent le fœtus bouger, mais quand il y a un déni de grossesse, finalement, vous ne savez pas que vous êtes enceinte, ce fœtus, vous ne le sentez pas bouger ?
Ben oui, il y a certaines grossesses qui restent invisibles, et dans les cas des dénis de grossesse, la femme, elle n'a pas conscience d'être enceinte. Elle va l'apprendre tardivement, hein, au deuxième ou troisième trimestre, voire au moment de l'accouchement. Alors là, on parlera de déni complet. Et c'est des femmes, voilà, qui ne présentent aucun signe de grossesse, pas de gonflement abdominal, pas de tension mammaire, rien. Et ça, voilà, le déni de grossesse, nous, on l'explique dans le livre comme un trouble qui implique finalement les perturbations de l'interoception. Le cerveau reste aveugle et le corps dissimule.
Moi, ce que j'aime, c'est la question que vous vous posez, c'est qui a trompé l'autre ? Est-ce que finalement, c'est le cerveau qui a trompé le corps ou est-ce que c'est le corps qui a trompé le cerveau ? On en revient toujours à cette idée que le cerveau, a priori, il parle le premier.
Eh bien, on ne sait pas encore. C'est justement un des objectifs des recherches qu'on mène en ce moment à Sorbonne Université, à l'Institut du cerveau, c'est qu'on ne sait pas encore de quoi ça part. Est-ce que c'est le cerveau qui trompe le corps ou est-ce que c'est le corps ? Probablement qu'en fait une interaction des deux, et vraiment qu'ils se co-trompent l'un et l'autre dans cette espèce de dissimulation de la grossesse. Et on ne sait pas encore pourquoi, pour quelle raison, mais ce qui est certain, c'est que les femmes qui ont eu tendance à faire un lien de grossesse,
elles pourraient en faire d'autres, voilà, en fait.
Il y a une majoration
ça.
Aussi ouais. des phénomènes qui pourraient faire qu'il y a d'autres types de nids de grossesse qui viennent après. Puis, des nids de grossesse, en fait, ça implique donc la dissimulation, finalement, par le corps de phénomènes sensoriels. Eh bien, on sait que c'est des femmes qui ressentent un peu différemment aussi leur corps en général, qui ont une interoception, donc dans la vie quotidienne qui est un peu modifiée. Donc, ça, c'est une des choses qu'on étudie chez les femmes qui ont eu des nids de grossesse. Mmh. Et qu'on essaie de voir un peu la perception directe du cerveau et du corps.
Mais est-ce que dès qu'elles l'apprennent, finalement, le corps reprend sa place ou pas forcément ?
Oui.
Très rapidement, oui. Le corps, voilà, les signes apparaissent vraiment très très rapidement, hein, dans les minutes qui suivent la levée du déni. Le ventre s'arrondit, voilà, les signes apparaissent. Et ça peut être aussi un moment compliqué pour la mère qui peut être aussi dans un état de sidération et qu'il faut vraiment accompagner à ce moment-là.
La levée du déni, c'est vraiment la prise de conscience par la mère d'une grossesse en cours. Et cette prise de conscience, elle est suivie par l'apparition des signes de la grossesse. Et encore une fois, c'est compliqué, parce qu'on sait que la prise de conscience, la capacité à prendre conscience de quelque chose, ça dépend aussi de la façon dont est l'intérieur de notre corps. Vous savez que, par exemple, la conscience d'être vous-même en ce moment, la conscience d'être présent dans ce studio, la conscience d'être ici dans le présent, eh bien, ça dépend aussi de la façon dont fonctionne l'intérieur de votre corps. Donc, c'est pas suffisant comme explication pour comprendre la causalité de ce lien.
Je me sens très présent, moi, là, pour l'instant. Lucie, vous vous sentez présente ?
Très, très présente.
Hugo ?
Oui, ça va.
Bon, d'accord. Alors, il y a le déni de grossesse, mais par opposition, il y a ces fameuses, alors, grossesses, fantasmées, comment vous les appelez, vous ?
Voilà, en miroir du déni de grossesse, un autre phénomène fascinant, ce sont les grossesses imaginaires, ou autrement appelées pseudo-siaise. C'est un phénomène qui est décrit vraiment pseudo-siaise.
D'accord, ok.
Dans un terme médical, et c'est un phénomène qui est décrit vraiment depuis l'Antiquité par Hippocrate, où les femmes qui vivent ce phénomène sont convaincues d'être enceintes, et pour cause tout est là, hein, gonflement abdominal, sein douloureux, sauf le bébé. Et voilà, c'est un phénomène qu'on
explique. Et les montées de lait, enfin.
Voilà, tous les signes de grossesse. Et c'est un phénomène qui est provoqué par un trouble de la communication corps-cerveau et en lien avec voilà, des variations hormonales.
Alors c'est quelque chose qui peut arriver même chez les gens qui ont des connaissances médicales ou sur la grossesse extrêmement précises. Hein. Ça peut arriver chez une sage-femme, chez un médecin. On a vu une médecin, voilà, dans le livre qu'on a mis, dans l'exemple qu'on a utilisé dans le livre, c'est une médecin qui connaît très très bien tout le fonctionnement du corps, etc. Et qui pourtant qui est persuadée d'être enceinte, qui a cette croyance extrêmement forte qui survient. Et en fait, quand vous ressentez des choses, quand vous ressentez des mouvements du bébé, quand vous avez tous les signes de la grossesse, bah, quelle raison de ne pas croire que vous êtes enceinte. Donc c'est quelque chose qui s'explique aussi par rapport à toutes ces sensations qu'on ressent.
Et là, vous parlez des sages-femmes et vous expliquez dans votre livre que le personnage le plus important de la grossesse, c'est la sage-femme.
En effet, elles ont un rôle indispensable parce que le triple enjeu de la psychiatrie périnatale, c'est vraiment la prévention, le repérage et la prise en charge. Donc elles ont un rôle clé.
C'est la première ligne, hein, les sages-femmes. C'est la première ligne, même pour tout ce qui est psychique, hein, pour la psychiatrie périnatale. Mmh. C'est elles qui sont vraiment au cœur de la prise en charge. Donc on s'appuie énormément sur les sages-femmes et on les remercie d'ailleurs de nous accompagner à chaque fois.
Mmh. Et elles ne sont pas assez nombreuses ?
Non, pas assez nombreuses. Il y a des problèmes de reconnaissance qui sont toujours au cœur des combats à laquelle mènent. Et puis on espère que c'est des combats qui vont mener à des changements.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Il y a quelque chose que vous appelez des phobies d'impulsion. Qu'est-ce que vous appelez des phobies d'impulsion ?
Alors, les phobies d'impulsion, ce sont en fait la crainte des mamans de faire du mal à leur bébé.
Et ça, vous dites que c'est courant aussi.
Alors, c'est très courant, sauf que les mères n'en parlent pas parce qu'elles se culpabilisent d'avoir ces idées-là. Typiquement, ça peut être une femme qui, avec son bébé, qui passe à côté d'une fenêtre et elle va avoir la peur de jeter son bébé par la fenêtre, par exemple. Et en fait, on s'aperçoit que dans le postpartum, c'est très, très fréquent et on n'en parle vraiment pas assez.
Il y a plein de thématiques. Hein. La plupart du temps, c'est des choses qui sont soit dont on a vraiment honte, qui peuvent être très honteuses sur le plan social, sur le plan culturel.
La mauvaise mère.
Très dangereuse.
Ouais.
Ouais, donc ça peut être de la violence directe sur le bébé, mais ça peut être avec une dimension plus sexuelle aussi qui peut se mettre en place. C'est pas du tout ni des mères qui vont faire du mal à leur bébé, ni des mères qui ont des vraies pensées mal intentionnées. C'est juste qu'elles ont tellement peur de faire ces choses-là, ça leur paraît tellement impossible que finalement, ça va emplir leurs pensées, ça va être des ruminations très fortes. Et à chaque fois qu'elles vont être mises en situation, ces pensées vont revenir. Alors ce qu'on fait en général dans ces cas-là, c'est qu'on fait de l'exposition progressive, c'est-à-dire qu'on essaye de faire que les pensées elles soient de moins en moins angoissantes, et on sait qu'en diminuant l'angoisse, ça permet progressivement que les pensées elles disparaissent.
Bon, et la suite se trouve dans votre livre, on l'a feuilleté mais c'est vraiment passionnant, il y a énormément de nouvelles informations, ça s'appelle Dans le cerveau des mamans, aux éditions du Rocher. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin,
merci
pour ce moment. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo, la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.